Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On va reparler avec Marianne Soubré et avec Jean-François de Notre-Dame de Paris, de plomb, de confinement. Petit extrait de Marianne d'abord.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, je suis comme Étienne, je ne comprends pas avec ce qu'on sait des particules. Alors c'est vrai que c'est pas de l'amiante, c'est du plomb, mais quand même je trouve qu'on aurait dû confiner, et en tout cas si on ne l'a pas encore fait, puisque ça n'est pas fait, il faut absolument le faire. Qu'ils ont pris des mesures pour les trucs qui sont directement sous leur responsabilité, c'est-à-dire les écoles. Mais les habitants de Paris aussi sont sous leur responsabilité. Évidemment. Et on n'a pas eu de communication pour dire aux gens qui, attention, vous avez des jeunes enfants, il va falloir faire une sorte de ménage.
Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, Marianne vous écoute. Monsieur Jean-François de Gironde.
Oui, je suis professeur de toxicologie, oui, pour le plomb. Donc il y a aussi le principe de précaution qui est souvent invoqué. Alors vous qui êtes juriste, le principe de précaution s'applique quand on ne sait pas évaluer les risques, c'est-à-dire quand on ne connaît pas ou peu la nature de du danger. C'était le cas éventuellement de l'amiante ou d'autres éléments. Alors pour l'amiante, vous l'avez dit d'ailleurs parfaitement que c'est pas le même cas pour le plomb, puisque l'amiante agressait directement les poumons et déclenchait un cancer du poumon. Pour le plomb, c'est des intoxications à long terme avec le plomb qui pénètre et va se stocker dans les tissus. C'est pour ça d'ailleurs que les doses pour le plomb sont hebdomadaires et non pas journalières. Donc à ce moment-là, c'est la surveillance long terme qui compte. Et effectivement, les plombémies sont les seuls outils pour évaluer éventuellement les risques de santé avec les seuils qui ont été déterminés. C'est pour ça que la réponse que vous a fait le fonctionnaire de la ville de Paris là, a été tout à fait pertinente. Et donc, des expositions à très court terme ne posent pas de problème à condition évidemment de les contrôler.
Qu'est-ce que vous appelez
court terme ? Justement, cette surveillance doit être mise en place. Alors, il faut savoir qu'en France, la mise en place de ces surveillances, ce qu'on appelle le monitoring humain, la surveillance directement chez l'homme, est très récente. Je me suis battu des années pour arriver à la mettre en place alors qu'elle était en Allemagne. Depuis 2006, la première qui a été étude. Et donc, ce qui a péché là-dedans, c'est plus des problèmes de communication, parce que on a une tradition médicale qui fait que on doit communiquer individuellement aux gens. D'ailleurs, c'est ce que dit l'ARS, on communiquera individuellement aux gens les résultats, etc. Et qu'il n'y a pas vraiment de structure d'information publique, et ce qui fait des inquiétudes disproportionnées par rapport à la réalité. Donc là, on n'a pas du tout besoin, on n'est pas dans un cas de crise sanitaire. Par contre, évidemment, il faut nettoyer les plombs pour pas qu'il y ait d'exposition ou de surexposition à long terme, ce qui est en train d'être fait, mais l'ensemble des autorités sanitaires disent que les résultats des plombémies ne posent pas de problème. Pour les ouvriers, ils sont soumis, eux, à d'autres règles et ils sont sur la surveillance de la santé travail, ce qui a d'ailleurs été expliqué ce matin par le fonctionnaire de la ville de Paris.
Mmh. Alors Jean-François, merci beaucoup. Alors là, parce que l'éclairage était vraiment très important.
Complet, là.
Donc merci beaucoup. J'entends bien ce que vous dites. Hein, il faut une exposition longue pour que ce soit dangereux. Simplement...
Non, il y a des risques. Attendez, le plomb, c'est un danger. Le plomb, c'est un toxique.
Par contre,
est-ce qu'il y a des risques ? C'est pour ça que les deux mots sont très importants en toxicologie, où on fait la différence entre danger et risque.
D'accord. Mais par contre, très bien, et là, effectivement, on procède à des opérations de nettoyage dans tous les lieux qui appartiennent à la municipalité, etc. Quid des logements, si les gens n'ont pas bien nettoyé, puisque effectivement le saturnisme c'était plus on va lécher la peinture, etc.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe si des gens n'ont pas nettoyé comme ils auraient dû dans leur logement, qu'ils ont des petits-enfants et que ces enfants ingèrent les poussières de façon soit ponctuelle, soit de façon régulière? Est-ce qu'il y a justement un risque ou pas?
Alors, il peut y avoir un risque, évidemment, des expositions à long terme. D'ailleurs, depuis 95, l'opération plomb avec, c'était Simone Veil, je crois qu'il avait mis en place, et en particulier sur Paris, on a vu dans les écoles du saturnisme. L'inquiétude des enfants exposés, comme vous dites, dans les vieilles maisons, aux peintures au plomb, etc. Et donc, il y a une surveillance qui est faite, en particulier au niveau scolaire, alors qui est peut-être largement imparfaite. Mais, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, avoir une surveillance à long terme efficace.
Si
c'est-à-dire
peut-être
pas
pour
ponctuel
ça...
de temps en temps. Il y a une stratégie de surveillance. Alors, des gens exposés. Le problème, c'est que c'est pas forcément les riverains qui sont les plus exposés, puisque aujourd'hui, on a des modèles de dispersion mathématique qui essaient d'identifier,
oui, mais
d'ailleurs,
non, mais...
à longue distance. Il y a des gens qui peuvent être plus exposés que les riverains.
Non, mais Jean-François, d'accord, mais c'est peut-être pour ça aussi que je pense que ça pourrait être utile, ou ça aurait pu être utile, ou ça pourrait être utile pour l'avenir, que s'agissant de tous les habitants de Paris, la mairie communique en leur expliquant quelles sont les modalités de ménage, par exemple, qui sont nécessaires pour éviter une éventuelle ou hypothétique contamination de leurs enfants par ces poussières-là. Et c'est là où moi je trouve qu'ils ont une certaine responsabilité, que ça aurait été bien justement de...
Absolument, la communication a fait défaut.
Voilà.
Pourquoi? Parce qu'ils privilégient la communication individuelle, ce qui est dit, parce qu'on a une tradition médicale du secret du dossier médical,
oui,
etc.
Oui,
qui fait que quand on a des résultats de plombémie, etc., on ne le communique pas aux autres, on le communique aux familles et on leur recommande des mesures de gestion, de précaution, donc de diminution d'exposition, évidemment, individuelle et pas forcément générale.
Voilà.
Et là, il y a un problème de communication. Il n'y a pas vraiment un problème de santé publique, mais il y a vraiment, à l'occasion de ce truc-là, on voit bien qu'on ne sait pas gérer la communication.
Merci Jean-François
de ces
explications précises. Merci Jean-François, bonne journée, à bientôt dans un instant. Mehdi, des Hauts-de-Seine, il est fonctionnaire de police. Et on va reparler, tu sais, des cités, du deal de ce fameux panneau d'affichage tarifs et drogue vu du côté de Marseille. Ça a été un gros sujet de discussion tout à l'heure avec les grandes gueules. Donc Mehdi, fonctionnaire de police, avec Zora Habitant dans un instant.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
J'ai entendu à la radio ce matin.
RMC.
Un bruit étrange court dans Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sans blague.
Attends, understand.
9h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Midi.
Mais pourquoi tu m'écoutes pas?
Qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi tu m'écoutes jamais? Qu'est-ce que c'est que ça?
Salut le mec, ça pisse.
Alain Marchal.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
Les grandes gueules.
Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, il existe pourtant une règle simple.
Pouvoir grand dans la vie.
On continue le GGVous en direct sur RMC, RMC Story, et le GGVous avec Mehdi, qui est fonctionnaire de police. Il veut donc reparler avec Zora de nos discussions tout à l'heure sur le cannabis, ses cités, ou le menu, enfin, ou plutôt la marchandise est affichée telle quelle avec les tarifs, les heures d'achat et autres. Ça a été notre discussion. On réécoute Zora.
Mais si, à la question sociale, comment tu gagnes ta vie en travaillant et en vendant pas de la grogne? Les mecs, ils vendent de la drogue, pourquoi dans les cités? Moi, j'ai vécu dedans, je sais ce que c'est. Pourquoi tu te mets à vendre de la drogue? Parce que t'as pas un rond, parce que tes parents, ils ont pas une thune. Et que tu es, ben voilà. Donc, si tu as un travail, pourquoi d'autres enfants dans les cités
on est
ne
dans
le
une
font
société.
Pas?
Nous sommes donc avec Mehdi, fonctionnaire de police dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour les GG, bonjour Zora.
Allez-y.
Bonjour.
Alors voilà, moi Zora, lorsque je vous entends, j'ai l'impression que vous justifiez presque la profession entre guillemets de dealer, quoi. Que c'est parce qu'il y a un contexte social donné, qu'il n'y a pas de boulot, que ces pauvres gamins en fait doivent se livrer à du trafic de stupéfiants. Je suis désolé. Vous parlez pas aussi d'un point essentiel, c'est aussi la question de facilité, de choix. Moi aussi, je suis comme vous, j'ai grandi en cité dans le 93, hein, pour vous dire. Avec une situation économique très compliquée. Moi, j'ai connu aussi les colis des Restos du Cœur. On en a bénéficié dans ma famille. Et jamais, au grand jamais, on s'est posé la moindre question quant à franchir la ligne rouge, entre guillemets. Il y a la question d'éducation. Vous avez raison lorsque vous dites que, effectivement, le contexte social et économique, ça joue. Forcément, ça joue. Mais à vous entendre, c'est ce qui m'a gêné. Et puis, et en plus, moi, d'habitude, j'aime bien vos interventions, tant dans la forme que dans le fond. Mais là, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai l'impression que vous justifiez presque ça, quoi.
Non, parce que, en fait, parce que d'abord, je peux pas justifier ça. Parce que moi-même, je me suis battu tout le temps contre. Et que j'ai élevé des enfants, justement, pour que jamais ils tombent là-dedans. Et que c'est un combat. Ce que je veux dire, c'est que je mettais ça en parallèle avec la légalisation. C'est-à-dire que la légalisation, elle n'arrive pas de la part des pouvoirs publics parce qu'ils ont trouvé, eux, une question sociale, du coup la paix sociale, c'est-à-dire l'économie parallèle, j'ai toujours entendu en politique que ça arrangeait du monde. Et puis de l'autre côté, en face, il y a la facilité. Mais cette facilité, pour pas tomber dedans, il faut éduquer ses enfants. C'est-à-dire qu'il faut être proche, il faut être taquet avec eux, il faut tout le temps leur proposer des choses, il faut éviter qu'ils soient en bas pour rien, etc. C'est tout quand même, c'est quand même une proximité avec ses enfants quand on habite dans ces environnements qui est quand même soutenu. Moi, je l'ai fait pour mes fils, super, ça a bien marché. Il y a plein d'environnements où ça ne fonctionne pas. Je ne justifierai jamais, parce que sinon, à ce moment-là, n'importe quel pauvre pourrait dire, bah écoutez, moi je cambriole parce que j'étais pauvre. C'est pas ce que je veux dire.
C'est un malentendu.
Ce que je veux dire, c'est que l'État français, depuis un moment, laisse un peu cette économie parallèle un peu de côté, ne traite pas les questions sociales, et du coup, c'est la facilité pour certains qui ne veulent pas s'engager.
Mais vous savez, Zora, si on part sur... Là, c'est le citoyen qui parle, hein, c'est pas le policier.
Oui.
On part sur la légalisation. Tout à l'heure, vous avez montré à l'antenne une pancarte. Vous savez ce qui va se passer, en fait, si on légalise le cannabis? Eh ben, c'est juste que le menu va changer tout simplement.
La pancarte,
ça sera toujours là.
Évidemment.
Et on va aller sur des drogues plus dures, de synthèse. La drogue, c'est de la drogue, quoi. Point barre, quoi.
En plus, il y a deux phénomènes, Mehdi. C'est-à-dire que la légalisation du cannabis ne réglera pas les questions socio-économiques. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, si on enlève le cannabis, ils passeront à autre chose. Ça, c'est évident.
Ouais.
C'est évident. Donc, la légalisation changera rien.
Mehdi, une dernière question concernant ce sujet. Parce que tout était parti, vous savez, de cette ardoise avec le menu des drogues, mon cher Mehdi. Vous l'avez déjà vu, ça, ou pas?
L'ardoise, je vous avoue que non, mais bon, on a connu quand même les supermarchés, entre guillemets, à ciel ouvert.
D'accord.
Donc, l'ardoise, on a franchi un cap, là.
Ok. Mehdi, merci.
Merci beaucoup, Mehdi.
Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Mehdi. Je vous envoie un t-shirt DGG. On continue avec Nicolas, qui veut revenir sur cette question du cannabis aussi, avec Marianne Soubret. Nicolas, il est dans les Yvelines. Petit extrait de Marianne d'abord.
Et si c'est interdit, tu peux pas avoir des gars qui affichent ça comme ça, sans qu'on arrive et qu'on démantèle tout le réseau, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Parce que pendant ce temps-là, comme on a fait un moment avec les grands frères, etc., qui étaient quand même un peu chelous, tu vois, pourquoi on ferme les yeux? Parce que tout le monde vit cette économie parallèle. Pendant ce temps-là, on gagne une petite tranquillité et on a abandonné toute une partie de la France. Moi, je suis désolée, tant que ça sera interdit, on ne pourra pas afficher ça. Si on l'affiche, c'est qu'en fait, ces zones-là sont en France,
c'est
des zones de non-droit.
Donc, Nicolas, bonjour.
Bonjour les grandes gueules, bonjour Marianne.
Bonjour Nicolas.
Bon, alors, vous inquiétez pas, Marianne, foncièrement, je suis d'accord avec vous. Mais
ben
moi,
voilà.
dans un état où c'est interdit, ce que j'aimerais aussi, c'est que le gouvernement ne prenne pas de TVA quand il nous vend un grinder dans un bureau de tabac, vous savez, les petits trucs pour effriter les têtes de bœufs, qu'il ne prenne pas de TVA sur les paquets de longues feuilles OCB remplis de carton, parce que ça, si on me présente un jour un mec qui fume des cigarettes roulées avec ça, du tabac roulé, franchement, qu'on me le présente, parce qu'il y a que les fumeurs de joint qui achètent ça. Et non,
je sais même pas ce que c'est en plus.
C'est des grandes feuilles qui sont faites pour faire.
Ils sont en vente libre, tranquillou.
Continuez, Nicolas.
Ouais, non, mais c'est tout, quoi. Je veux juste dire que le gouvernement, il est hypocrite. D'un côté, il nous dit, regardez, il y a des dealers et tout, ça crée des problèmes. De l'autre côté, il nous vend toute la panoplie pour fumer.
Oui, mais si vous voulez, c'est comme ça sur beaucoup de choses, hein, cette hypocrisie.
Ouais, bien sûr.
Elle existe sur.
Il vous vend la panoplie pour fumer ou pour rouler vos cigarettes, pas forcément.
Oui,
pour
mais enfin, quand t'as une feuille de 10 cm de long.
Tu fais une longue cigarette roulée.
Alors, quand tu racontes les histoires que tu veux.
Présentez-le-moi, c'est bien là. Présentez-le-moi.
Je vais être claire, je savais même pas que ça existait. Alors, donc, comme ça, vous voyez la naïveté au point où j'en suis. Mais Nicolas, en fait, je pense qu'on est assez d'accord. Le problème, c'est que il y a une hypocrisie, que ce soit dans la vente, on va dire, d'accessoires qui permettent aux fumeurs de fumer, mais également justement dans le fait de fermer les yeux sur ce deal à ciel ouvert que tout le monde connaît, que ce soit la police ou autre. Donc, il n'y a pas de volonté, mais cette volonté, c'est pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les effectifs policiers, malheureusement, sont aussi mis ailleurs. La deuxième, c'est que, effectivement, pour la justice, le petit fumeur de joint, on va pas non plus encombrer les tribunaux avec ça. Et puis la troisième et vraie raison, malheureusement, c'est que ça fait vivre et ça permet un certain calme dans certains quartiers. Oui. Voilà. Donc tant qu'on en sera là, malheureusement, on n'aura pas de vraie volonté politique que ça s'arrête.
C'est pour ça qu'on est dans une espèce de paix sociale hypocrite et officieuse. Et ensuite, on vient à l'Assemblée nationale ou devant les caméras dire que c'est une honte, ces trafics sont un scandale. Et on n'ose pas franchir, mais si tu veux, au moins du débat politique et d'avancer sur
toutes les drogues sont liées à la paix sociale. Hein, l'alcool, il est lié aussi à la paix sociale. Hein.
Moi, j'ai même vu des policiers qui, après avoir contrôlé un fumeur, le laisser partir avec sa balle.
Oui, mais ça, si vous voulez, enfin, je veux dire, et on les comprend, les policiers, parce que s'ils en sont à attraper les fumeurs de joint, enfin, il y a aussi ça, c'est qu'au bout d'un moment, on sait très bien que ça ne va pas aller très loin.
Merci Nicolas d'avoir alimenté nos discussions. Je vous dis à bientôt, Nicolas. Bonne route à vous et puis à très bientôt. Je voudrais qu'on garde les deux minutes qui restent dans les GG pour parler avec Zora Bitant.
Ah oui. Bravo.
On te félicite parce que Zora a appris à nager.
Oui.
Non, mais c'est un truc de fou, moi.
Ailleurs que chez les socialistes. Je veux dire, nager pour de vrai.
Non, mais c'est vrai que chez eux, j'ai jamais su nager.
comment ça se fait? Tu ne sais pas.
J'ai eu un traumatisme avec l'eau. J'avais quoi, 6 ans? Mais toute ma vie, j'ai rêvé j'en ai rêvé. Il y a des gens qui sont phobiques et qui iront jamais. Moi, c'était une obsession. Je me disais qu'il fallait vraiment que je nage. Et un jour, il y a 7-8 ans, j'ai fait un stage pour apprendre à nager. Donc, c'était super. Là, j'ai découvert la sensation extraordinaire de flotter, mais je nageais pas.
Ah oui. Voilà. En fait, tu restais au bord.
Voilà. Enfin,
et là, cet été, tu t'es vraiment lancé.
J'arrivais quand même à traverser la piscine sous l'eau.
Mais là, tu t'es baigné dans la mer. Tu as nagé.
Et là, le miracle s'est produit.
Mais comment ça s'est fait? C'était quoi le déclic?
En fait, j'étais avec ma petite fille qui a 8 ans et demi au bord, et juste avant, j'avais dit à mon mari, mais si j'arrive à faire la planche sur le dos, je pense que c'est ça qui va me mettre en confiance, parce que c'est une histoire de confiance, la flotte. Hein, c'est rien d'autre. Hein. Parce qu'en fait, tout le monde flotte, mais sans perdre. Et en fait, je me suis mise sur le dos, je me suis un peu laissée aller, je me suis un peu, j'ai risqué, et finalement, quand j'ai réussi à faire la planche sur le dos,
t'es retourné.
Voilà. Et là,
le burkini t'a beaucoup aidé.
Et là, mon fils aîné, Omar, m'a dit, et je lui dis, mais tu sais, je nage encore sous l'eau, mais j'arrive pas à sortir la tête pour prendre de l'air. Et il me dit, mais tu sais, marrant, tu te casses pas la tête, tu fais comme ça, tu vas voir que tu vas monter. Et j'avais mon mari de l'autre côté qui disait, mais non, faut faire la brasse comme ça. Puis l'autre, il me dit, mais laisse-la tranquille déjà qu'elle arrive. Et donc, j'ai fait, et je me suis rendu compte que j'arrivais à... Et alors après, je vous explique même pas.
Tu sortais
plus de l'eau. J'ai sauté dans les vagues.
Et Laure Manaudou. Maintenant, on l'appelle Laure Manaudou.
Non. Donc, je vais prendre des cours.
Mais t'as failli revenir à la nage en France.
Oui, je vais prendre des cours pour vraiment nager, parce que il paraît que 75% des gens disent qu'ils savent nager, mais en vérité,
ils barbotent.
Félicitations, mes chers Zora. En plus, elle a fait ça dans la Grande Bleue, la mer Méditerranée.
Voilà,
c'est la plus belle des mers. On se retrouve demain, entre 9h et midi. Demain, nous serons avec Zora, sera toujours avec nous, Fatima Ibounois, Anas Kazib. Et demain, le président des jeunes agriculteurs qui viendra nous expliquer si, oui ou non, ce sont bien eux qui démontent, qui vandalisent les permanences en ce moment des députés de La République En Marche. Passez une bonne journée et à demain, 9h.
RMC, les grandes gueules.